Chapitre 7. Un soir, Henri et Sully causaient en tête à tête dans la chambre à coucher du roi, les pieds sur les chenets, comme deux simples bourgeois de la rue Saint-Denis. C'était 3 ou 4 mois après la mort de Gabriel et 1 mois ou 6 semaines après que mademoiselle d'Entragues avait succédé à la duchesse de Beaufort. « Sire, disait Sully, voici que nous avons le consentement au divorce de Marguerite. Voici que votre mariage va être cassé en cour de Rome. Il faudrait songer à vous choisir une femme parmi les princesses régnantes. Car, sans que je vous rappelle votre âge à mauvaise intention, sire, vous allez avoir 46 ans au 13 décembre prochain, et c'est l'heure de vous marier si vous voulez conduire votre dauphin jusqu'à sa majorité. » Henri resta un instant pensif, puis secouant la tête. « Mon ami, dit-il, « c'est chose grave de prendre une seconde femme quand la première s'appelait Marguerite de Valois. Car supposez que je réunisse en une seule créature toutes les beautés et toutes les qualités de toutes les maîtresses que j'ai eues, je lui souhaiterais encore autre chose. Mais que vous faudrait-il donc trouver en une femme, sire, pour que vous fussiez content ? Il me faudrait trouver beauté en sa personne, pudicité en sa vie, complaisance en son humeur, habileté en esprit, fécondité en génération, éminence en extraction et grands états en possession. Et, mon ami, je crois que cette femme n'est encore née ni prête à naître. » « Eh bien, dit Sully, cherchons donc un objet réel. » « Cherchons si cela peut te faire plaisir, on nie. » « Que dites-vous de l'infante d'Espagne, sire ?»« Je dis que, quoique laide et vieille à plaisir, elle me conviendrait assez, pourvu qu'avec elle j'épousasse les Pays-Bas. Ne voyez-vous pas quelque princesse en Allemagne ? Ne m'en parlez pas, Sully. Une reine de cette nation a failli tout ruiner en France. Les sœurs du prince d'Orange. Elles sont huguenotes et me mettraient mal avec Rome et avec les catholiques zélés. La nièce du duc Ferdinand de Florence. Elle est de la maison de la reine Catherine, qui a fait bien du mal à la France et à moi en particulier. Mais alors, sire, voyons au-dedans du royaume. Vous avez, par exemple, votre nièce de Guise. Elle est de bon lignage, belle, grande, bien faite, un peu coquette, et aime, à ce que l'on assure, autant les poulets en papier qu'en fricassés ou à la broche. Douce, spirituelle, amusante, elle me plairait beaucoup. Mais je craindrais sa passion pour l'agrandissement de ses frères et celui de sa maison. L'aînée de la maison de Mayenne, quoique noire, ne me déplairait pas non plus, mais elle est trop jeune. Il y a une fille dans la maison de Luxembourg, une dans celle de Guéméné, ma cousine Catherine de Rohan. Encore cette dernière est-elle huguenote, et quant aux autres, elle ne me plaise pas. Enfin, sire, dit Sully, comme au bout du compte il faut vous marier, à votre place, moi, je m'arrêterai tout simplement à une femme qui fut d'humeur douce et complaisante, qui me donna des enfants et qui fut en état de conduire le royaume et sa famille si je laissais, en mourant, un dauphin trop jeune pour régner par lui-même. » Henri IV poussa un soupir. Sully vit bien qu'il fallait faire des concessions. « Quitte, dit-il, à chercher dans une maîtresse les qualités qui manqueraient à la femme. » Ce dernier point parut toucher Henri IV. « La maîtresse, je l'ai déjà, dit-il. Reste la femme. »« Eh bien, sire, cherchons. »« Je ne vois que celle que je t'ai nommée. »« Eh bien, cherchons parmi celles que vous m'avez nommées. » Et les deux hommes se mirent à chercher. Enfin, après avoir bien cherché, débattu, discuté, le préjugé du nom des Médicis fut écarté, et le choix s'arrêta sur Marie de Médicis, nièce de Fernand de Médicis, grand-duc de Florence, fille de François de Médicis, dernier duc, et de Jeanne d'Autriche. Ce n'était déjà plus une jeune fille lorsque Henri IV songea à l'épouser. C'était une femme de 27 ans. On parlait avec éloge de sa beauté. Voyons si c'était justice. Elle avait le front élevé, dit l'histoire, les cheveux du plus beau brun du monde, le teint d'une blancheur admirable, les yeux vifs, le regard fier, l'ovale du visage parfait, le col et la gorge admirables, les bras et les mains dignes de servir de modèle aux grands peintres et aux grands statuaires de sa patrie, le tout complété par une taille riche et bien prise. Voyons ce que dit la réalité. Voyez Rubens. Rubens y a succombé. La discorde, avec ses cheveux noirs, son corps tout frissonnant, ses yeux de flamme, est splendide. La Néréide, la blonde et charmante, c'est un rêve d'amour pétri de lys et de roses. Mais la reine dans tout cela, la grosse marchande, comme l'appelaient nos Français, grasse et grande femme fort blanche, avec de beaux bras et une belle gorge, est essentiellement vulgaire et la vraie fille des bons marchands, ses aïeux. Voilà pour ses qualités physiques. Quant aux qualités morales, elle était loin d'avoir toutes celles que Henri IV espérait trouver en elle. Elle avait le cœur bon, généreux même. Son esprit était d'une certaine délicatesse. Mais elle avait plus de présomption que de capacité, plus d'entêtement que de valeur réelle. Attachée avec opiniâtreté à ses sentiments ou à ceux des personnes qui la conseillaient, elle avait le goût de l'intrigue, l'instinct de cette politique italienne qui consiste à créer des partis et à les diviser ensuite. Une fois ces partis créés et divisés, elle ignorait l'art de les réunir en sa faveur et d'en tirer avantage, ce qui fit qu'au contraire, elle en fut toujours victime. Le roi, dans ses moments de mauvaise humeur, l'accusait d'être fière, orgueilleuse, défiante, amie du faste et de la dépense, paresseuse et vindicative. Seulement, il ajoutait, non pas comme contrepoids de ses défauts, mais peut-être comme complément de reproche, qu'elle était discrète et qu'il était difficile de découvrir ce qu'elle voulait cacher. Elle apportait des espérances, comme on dit en matière de contrat de mariage. Une énorme somme d'argent, d'abord, et la promesse d'un pape de parti français. Voilà pour la femme. Quant à la maîtresse dont s'était déjà précautionné Henri IV, c'est-à-dire quant à Henriette d'Entragues, c'était, parlons d'abord de sa naissance, c'était la fille de Marie Touchet et de François de Balzac, seigneur d'Entragues, de Marcoussis et du Bois de Malesherbes, fait par Henri III, chevalier de son ordre, en 1573. Née en 1579, c'était la sœur cadette du fameux comte d'Auvergne, devenu plus tard duc d'Angoulême, lequel était fils naturel de Charles IX, et que, s'il eût été fils légitime au lieu d'être fils naturel, ayant vécu 78 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1659, eût supprimé Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Cette veuve de Charles IX, cette femme de François de Balzac, était une rude gardienne de l'honneur de sa fille. Un jour, un de ses pages s'étant émancipé avec elle, elle le tua de sa main. Sa fille, Mademoiselle d'Entragues, avait 19 ans lors de la mort de Gabriel. Voici, sous ce rapport, ce qu'en dit Berthaud dans un de ses sonnets. Flambeaux étincelants, clairs astres d'ici-bas, de qui les doux regards mettent les cœurs en cendres, beaux yeux qui contraignaient les plus fiers à se rendre, ravissant aux vainqueurs le prix de leur combat. Riches filets d'amour semés de mille appâts, cheveux où tant d'esprits font gloire de se prendre, doux attraits, doux dédains de qui l'on voit dépendre ce qui donne au plus grand la vie et le trépas. Beau tour où nul défaut n'a pu trouver de place, et je serai stupide et je suis plein d'audace de taire votre gloire et d'oser la toucher. Car voyant des beautés si dignes de louange, pour ne les louer pas, il faut être un rocher, et pour bien les louer, il faudrait être un ange. Je ne sais si nos lecteurs ont remarqué que les trois poètes, faisant à cette époque ces sortes de vers ayant pour but d'exalter les beautés visibles et secrètes des maîtresses du roi, étaient l'abbé des Portes, l'évêque Berthaud et le cardinal Duperron. Revenons à Mademoiselle d'Entragues. Elle s'appelait Henriette. C'était un esprit pétillant, plus qu'un esprit, une flamme. Elle était fière, disputeuse, aigre, subtile, très jeune, 19 ans, avons-nous dit, une taille de nymphe contrastante avec la taille épaisse de Gabriel. Elle avait cette ressemblance avec Henri IV de faire ce que l'on appelait alors des saillies, ce que nous appelons, nous, des mots. C'était, dit Sully, un bec affilé qui, par ses bonnes rencontres, rendait au roi sa compagnie des plus agréables. L'érudition ne lui manquait point, et s'il faut en croire Emery d'Amboise, d'une de ses belles mains elle lisait les confessions de Saint-Augustin et de l'autre les Dames galantes de Brantôme. Mais elle était méchante, emportée, vindicative et bien plus ambitieuse que tendre. Henri IV doutait qu'il eût jamais été aimé d'elle, et, à plus forte raison, nous en doutons bien autrement que lui. Son moyen d'attraction fut de faire par intérêt ce que Mademoiselle de Tignonville et Antoinette de Ponce avaient fait par vertu. Les personnes, dit Sully, qui n'ont pour se faire estimer que quelques intrigues de cour, le mérite de faire au roi un compte avec grâce, de pousser des exclamations à tout ce qu'il peut dire, et d'être de ces parties de plaisir où les princes s'oublient comme les autres hommes, ces personnes-là lui firent tellement valoir les charmes, l'enjouement, les grâces et la vivacité de Mademoiselle d'Entragues, qu'elles lui firent naître l'envie de la voir, puis de la revoir, puis de l'aimer. Cette répulsion de Sully pour Mademoiselle d'Entragues n'était que de l'instinct. Mais elle devint bientôt de la haine lorsque Henri IV pria son surintendant des finances de payer 100 000 écus à Mademoiselle d'Entragues. C'était le prix que celle-ci, ou plutôt le père de celle-ci, avait mis à son amour. Sully, qui jouait près de Henri IV le rôle de raisonneur, fit observer au roi qu'au moment même où il lui demandait cette somme s'élevant à 600 000 ou 700 000 francs de nos jours, il était forcé, lui, de faire un fonds de 4 000 000 pour le renouvellement de l'alliance des Suisses. Malgré ses remontrances, force fut à Sully de donner les 100 000 écus. Mais à peine Mademoiselle d'Entragues eut-elle les 100 000 écus qu'elle fit intervenir dans des refus qui pouvaient désormais paraître singuliers au roi, son père et sa mère. Elle écrivit en conséquence à Henri. « Mon grand roi, je suis observé de si près qu'il m'est impossible absolument de vous donner toutes les preuves de reconnaissance et d'amour que je ne puis refuser au plus grand roi et au plus aimable des hommes. Il faut une occasion, et ne me les ôtons pas toutes avec soin et avec une cruauté presque invincible. Je vous ai tout promis, je vous accorderai tout. Mais il faut le pouvoir, et le puis-je au milieu des argus dont je suis obsédé ? Ne nous flattons pas, nous n'aurons jamais de liberté si nous ne l'obtenons de monsieur et de madame d'Entragues. Ce n'est plus moi qu'il s'agit de vous rendre favorable, je n'y suis que trop disposé. Vous avez obtenu mon cœur, que n'êtes-vous pas en droit de me demander ? » Or, ce moyen d'obtenir un peu plus de liberté de monsieur et de madame d'Entragues, c'était de faire à mademoiselle d'Entragues une promesse de mariage. D'abord, Henri refusa. Mais mademoiselle d'Entragues était si belle. Henri offrit une promesse verbale faite devant les grands-parents. Mademoiselle d'Entragues répondit. « Mon cher sire, j'ai fait parler et j'ai parlé à monsieur et à madame d'Entragues. Il n'en faut rien espérer. Je ne conçois rien à leur procédé. Mais ce que je puis dire à votre majesté, c'est que jamais ils ne se rendront si, pour mettre leur honneur à l'abri, vous ne consentez à leur faire une promesse de mariage. Il n'a pas tenu à moi qu'ils ne se contentassent d'une promesse verbale. Ils se sont opiniâtrés à exiger une promesse par écrit. Ce n'est point cependant que je ne leur ai démontré l'inutilité et l'injustice de cette formalité, et que les écrits n'auraient pas plus d'effet que les paroles, puisqu'il n'y avait pas d'official qui pût citer devant lui un homme qui avait tant de courage et une si bonne épée, et qui, pour ses moyens, avait toujours 40 000 hommes bien armés et 40 canons tout prêts. Et cependant, sire, puisqu'ils s'entêtent à cette vaine formalité, quel risque y a-t-il à se prêter à leur manie? Et si vous m'aimez autant que je vous aime, pouvez-vous faire difficulté de les satisfaire à mon égard? Mettez-y toutes les conditions que vous désirez y mettre. Tout ce que m'assurera mon amant me satisfera. » Henri était un joueur acharné à ce dangereux jeu des femmes. On pouvait l'en tirer facilement tant qu'il gagnait, jamais tant qu'il était en train de perdre. « Et, dit Sully, Cette pimbèche et rusée femelle sut si bien cajoler le roi et le tourner de tant de côtés et gagner de telle sorte les porte-poulets et cajoleurs qui étaient tous les jours à ses oreilles, qu'il consentit à cette promesse sans laquelle on lui faisait croire qu'il ne pourrait rien obtenir de ce qu'il avait déjà payé si cher. Par bonheur, Sully était là. Henri IV ne faisait rien sans le consulter. Or, Henri IV, étant à Fontainebleau et prêt à monter à cheval pour aller à la chasse, envoya chercher Sully et, le prenant par la main, entrelaça ses doigts aux siens, ainsi que c'était sa coutume quand il allait lui faire une demande qui l'embarrassait. « Eh bien, sire, demanda Sully, qu'y a-t-il encore ?»« Il y a, mon cher Sully, dit le roi, que, puisque je te fais part de tous mes secrets, je vais encore t'en confier un et te montrer ce que je veux faire pour la conquête d'un trésor que peut-être je ne trouverai pas. » Et mettant un papier dans la main de Sully et se tournant d'un autre côté, comme s'il eût eu honte de le voir lire, « Lis cela, lui dit-il, et donne-moi ton avis. » Sully lut. C'était la promesse de mariage du roi à Mademoiselle d'Entragues. Cette promesse était cependant soumise à une éventualité. Elle portait que Henri ne s'engageait à épouser que dans le cas où, dans l'espace d'un an, Mademoiselle d'Entragues mettrait au monde un enfant mâle. Sully, après l'avoir lu, vint au roi. « Eh bien, lui demanda Henri, que t'en semble ?»« Sire, lui répondit le surintendant, je n'ai point encore assez réfléchi sur une affaire qui vous affecte si fort pour vous en dire mon avis. » « Là, là, reprit Henri, parle librement, mon cher, et pas tant de discrétion. Ton silence m'offense plus que ne pourraient faire toutes tes observations et toutes tes critiques. Car sur le sujet dont il s'agit, et sur lequel je ne m'attends pas à ton approbation, après les 100 000 écus que je t'ai fait donner et qui te tiennent encore au cœur, je te permets de me dire tout ce qu'il te plaira, et je t'assure que je ne m'en fâcherai point. Parle donc librement et dis-moi ce que tu penses. « Je le veux, je l'ordonne. »« Sire, c'est bien vrai que vous le voulez ?»« Oui. »« Et quelque chose que je dise ou fasse, vous ne vous en fâcherez point ?»« Non. »« Sire, dit alors Sully en déchirant en deux la promesse, voici mon avis, puisque vous voulez le savoir. »« Ventre Saint-Gris, que venez-vous de faire là, monsieur ?» dit Henri. « Mon avis à moi est que vous êtes un fou. » « Oui, sire, répondit Sully, je suis un fou et même un sot, et voudrais l'être si fort que je le fusse tout seul en France. »« Je vous entends, dit le roi, et ne veux point vous en dire davantage pour ne pas manquer à la parole que je vous ai donnée. » Alors il quitta Sully. Mais en quittant Sully, il entra sans rien dire dans son cabinet, demanda de l'encre et du papier à Loménie et fit de sa main une nouvelle promesse qui, celle-ci, fut envoyée. Après quoi, il rencontra Sully au bas de l'escalier, passa devant lui sans lui parler et s'en alla chasser pendant 2 jours au bois de Malesherbes. En revenant à Fontainebleau, Henri trouva une somme de 100 000 écus comptés à terre dans son cabinet. Il fit appeler Sully. « Qu'est-ce que cela ? » lui demanda-t-il. « Sire, dit Sully, c'est de l'argent. »« Je le vois bien que c'est de l'argent. » « Devinez, sire, combien il y a là ?» « Comment veux-tu que je devine cela ? Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup. »« Non, sire. »« Comment non ? Il n'y a que 100 000 écus. » Henri comprit, puis, après un moment de silence. « Ventre Saint-Gris, dit-il, voilà une nuit bien payée. »« Sans compter la promesse de mariage, sire. »« Ah, quant à la promesse de mariage, dit Henri IV, « comme elle n'est valable qu'à la condition qu'il y aura un enfant et que cela me regarde ?»« Peut-être pas tout seul, sire. »« Oui, mais mal. Il faut que l'enfant soit mal. »« Confions-nous donc à Dieu, sire. Dieu est grand. » »« Et en mon absence, demanda Henri, il n'est rien arrivé de nouveau ?»« Si fait, sire, il est arrivé que votre divorce a été canoniquement prononcé à Rome. » « Ah, diable !» fit Henri un peu dégrisé. « Voilà qui change bien les affaires. » Ce fut quelques jours après cette nouvelle qui changeait bien les affaires, en effet, que Henri IV et Sully, raccommodés, avaient tête à tête et les pieds sur les chenets cette conversation matrimoniale que nous avons rapportée au commencement de ce chapitre.